Sur 99.5, vous écoutez Radio Campus Tours.
Coucou Arthur.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale réalisée par des étudiants de carrière sociale à Tours. Dans le cadre de notre formation, nous avons eu la chance d'interviewer Coralie Breujean. Elle a 39 ans, elle est adjointe aux solidarités et vice-présidente du Centre communal d'action sociale à la mairie de Poitiers. Elle est également une ancienne étudiante du DUT carrière sociale. Au cours de cet entretien, nous avons abordé plusieurs grands thèmes que nous allons vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, nous lui avons demandé de nous parler de son rôle et de ses missions en tant que vice-présidente du CCAS et adjointe aux solidarités. Au sein du CCAS, elle nous explique comment celle-ci s'articule et nous explique son rôle.
Côté vice-présidente du CCAS, le CCAS à Poitiers, c'est 40 millions d'euros de budget annuel et c'est 700 agents, 2 EHPAD, 4 résidences autonomie, 12 crèches, un service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile et des travailleurs sociaux qui font l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, plus un service santé. Là, mon rôle, il est à la fois d'impulser les politiques municipales que le CCAS va porter. Il est également de faire de la gestion. Je sais que parfois, ça ressemble à un gros mot. Mais à la fin du mois, la totalité de nos agents, ils doivent être payés.
Elle évoque aussi l'importance de travailler avec de nombreux partenaires et associations locales pour mieux répondre aux besoins des habitants.
Moi, je travaille énormément avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, sur le département de la Vienne, il gère le SIAO, Service Insertion, Accompagnement, Orientation. C'est-à-dire qu'il gère aussi le 115 et le SAMU social.
Je travaille aussi avec le Secours Populaire, avec le Secours Catholique, avec les épiceries sociales.
Son engagement politique nourrit également son travail au quotidien auprès des habitants. Nous avons également abordé la question de l'engagement citoyen des jeunes, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Elle nous partage son rôle sur l'évolution des jeunes dans la vie associative et politique et souligne l'importance de leur implication, même en dehors des partis politiques.
Moi, je vois beaucoup de jeunes engagés, y compris dans des mouvements politiques de jeunesse. Je crois que les jeunes communistes à Poitiers, c'est une soixantaine de jeunes, ce qui est quand même assez important pour un mouvement politique. Ce que je vois aussi, c'est un engagement politique, mais en dehors des mouvements politiques. Quand vous allez avoir les jeunes, je pense à Extinction Rébellion, c'est de l'engagement politique, c'est de l'engagement militant, mais pas dans une instance politique. Donc je pense qu'effectivement, les jeunes, il y a aussi... Après, c'est pas les jeunes, parce qu'on peut pas faire une globalité non plus, mais je pense qu'il y a toujours cet intérêt des jeunes pour l'engagement et pour la lutte pour un monde meilleur. Et heureusement, parce que sinon, franchement, autant tout arrêter, quoi. Voilà, et puis, nous, on voit bien aussi... alors, c'est moins mon domaine, mais on a toujours des jeunes qui s'engagent comme bénévoles dans les clubs de sport, qui s'engagent dans les associations culturelles, qui aussi amènent, qui mettent leur force de travail au service de causes qui ne leur rapporteront finalement financièrement rien. Et ça, c'est un vrai engagement. Enfin, on sait aussi les difficultés que les étudiants y rencontrent aujourd'hui. Il y a 75% des étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études. Donc c'est un vrai sacrifice que d'aller consacrer quelques heures à des causes qui nous dépassent. Donc moi, les gens qui disent « les jeunes ne s'engagent plus », je pense qu'ils se trompent et qu'ils ne connaissent pas de jeunes.
Beaucoup de jeunes s'engagent dans les associations culturelles, sportives ou encore dans des actions solidaires, souvent sans aucune rémunération. Elle insiste aussi sur l'importance de valoriser ces formes d'engagement, souvent invisibles, mais essentielles à la vie locale.
Mes priorités, c'est de conserver le service public qui est nécessaire aux habitants de la ville. Voilà, principalement c'est ça. Là, on n'en est même plus à qu'est-ce qu'on développe. qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on... Alors, on peut le faire à la marge, hein. On peut créer des petits services supplémentaires, des, voilà. Mais là, la majeure partie de ma mission, c'est de réussir à conserver nos services. On a été confrontés au fil des années, depuis 2020, en fait, à des décisions que nous n'avons pas prises et qui ont fortement impacté... impacter nos services et nos budgets, notamment après le Covid, les personnels soignants on leur a octroyé, et c'est tout à fait normal, des primes en plus de leur salaire, ce qui est tout à fait normal. L'État a pris cette décision. Elle a rejailli sur les collectivités. Donc moi, dans les EHPAD, j'ai les aides-soignantes. Les aides à domicile sont également concernées. Les CAP petits enfants sont concernés dans les crèches. Et en fait, toutes ces personnes, il a fallu leur accorder ces primes. Et c'est une bonne chose pour elles, mais on n'a pas eu la totalité de la compensation par l'État. On a fait face... Et encore une fois, c'est très bien. Il y a eu les fonctionnaires, ils sont payés par rapport au point d'indice. Ils ont un certain nombre de points. Et puis, il y a le point d'indice qui est national. Il y a une augmentation du point d'indice. Ça rejaillit sur la totalité des payes des fonctionnaires. Les collectivités locales n'ont pas vu d'augmentation de leur dotation. Donc, en fait, tout ça, nous, on a nos moyens, en fait, qui s'amenuisent. Et... En face de ça, on a des besoins de la population qui explosent, parce qu'on assiste à une vraie paupérisation de la population, avec des personnes qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie, qui n'arrivent plus à se loger, des problématiques extrêmement importantes de santé mentale, des difficultés de mobilité, La ville est toujours le dernier maillon. Nous, on dit souvent, l'élu municipal, c'est le seul qui a porté de baffe. Parce que, en fait, les gens, ils vont pas aller chez le député. Quelle que soit leur problématique, c'est l'élu municipal qui vont choper sur le marché. Parce que le député ou le conseiller départemental, ils savent pas qui c'est, ils s'en foutent. Vous, par contre, ils vous connaissent. Et là, voilà, ça peut... Mais effectivement, il faut... Il y a des choix qui doivent être faits. Et voilà, c'est les grosses problématiques actuelles.
Enfin, nous avons abordé avec elle les difficultés qu'elle rencontre dans sa carrière. Elle exprime les différents défis dans l'exercice de ses fonctions et comment elle les a surmontés.
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a, moi, je fais beaucoup de gestion du quotidien, avec des choses plus ou moins urgentes. Et puis après, il y a les projets à long terme. Ouvrir une nouvelle crèche, c'est un projet à très long terme. Voilà, il y a des échéances, c'est assez, ça suit son cours, voilà. La gestion du quotidien et la gestion des urgences, ça peut vite être chronophage. Alors, j'ai des équipes, hein, j'ai des directrices de service, c'est pas moi qui signe les chèques à la fin du mois, tout ça. Hein. Mais parfois, on se retrouve avec des situations pour lesquelles il faut prendre des décisions très rapides. Ça, je pense que c'est des défis parce que moi, je suis pas directrice. Mais aux yeux de la loi, c'est moi qui prends c'est moi qui signe, en fait. Donc, c'est moi qui suis garante de ces décisions. Moi, j'ai, alors sans doute comme vous le ferez, hein, j'ai géré des petites équipes de 4, 5, c'est monté jusqu'à 10 personnes. Voilà. Là, j'en ai 700, quoi. Donc c'est pas donc je connais pas tout le monde par son prénom, j'ai pas en tête la totalité des carrières, j'ai pas Voilà, mais parfois, bah, faut prendre des décisions. Alors, on prend avec ce qu'on nous donne comme éléments. Hein. Voilà, on a des services qui savent parfaitement faire. Hein. Ils donnent les éléments et ce qu'on appelle des aides à la décision. Hein. Donc, il y a la totalité des éléments. Puis, bah, à la fin, on vous demande, vous avez une note, vous avez l'ensemble des... Et à la fin, c'est bah, arbitrage. Voilà. Et là, bah, vous prenez la décision. Et ça, effectivement, ça demande... faut pas trembler des genoux, quoi. Faut être sûr de soi. Et puis, bah, si on fait une connerie, il faut être prête à l'assumer, quoi. Ouais. Voilà. Et ça arrive. Ça arrive. Mais voilà. Après, si c'était à faire, il y a peut-être des choses que je ferais... sans doute des choses que je ferais différemment. Mais je pense que au cours de ces 5 années, j'ai pris des décisions qui étaient les décisions à prendre, globalement.
Elle nous parle aussi des limites budgétaires et administratives qui peuvent freiner l'action sociale.
La thune. Voilà. C'est le nerf de la guerre. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces qui sont faites depuis... depuis l'arrivée de Bayrou, bon, concrètement, là, il y a des milliards à trouver. Les milliards, ils sont globalement pris pas chez les actionnaires, et plutôt sur la population en général et également sur les collectivités territoriales. En fait, je vais parler des communes, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Les communes, elles ont plusieurs arrivées d'argent. Elles ont l'impôt foncier, qui est payé uniquement par les propriétaires, puisqu'il n'y a plus d'impôts locaux, il n'y a plus de taxes d'habitation. Elle a la vente de ses produits, hein, donc typiquement, bah, quand les gens y payent la cantine, voilà, l'abonnement à la médiathèque, voilà, qui ne correspond pas au prix réel, quand même. Et puis après, il y a ce qui s'appelle la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement, qui correspond à ce que l'État octroie aux collectivités, alors en fonction de plusieurs facteurs, hein, en fonction de la taille de la collectivité et de son niveau, du niveau de richesse de sa population. Poitiers, c'est une ville pauvre avec des habitants pauvres. Il y a des villes riches avec des habitants pauvres. Par exemple, c'est Grande-Synthe, qui est dans le nord. Grande-Synthe a une population qui est pauvre, mais néanmoins, comme ils ont un énorme port, ils touchent énormément de taxes professionnelles, donc la ville en elle-même est riche. Ouais. Et vous pouvez avoir des villes pauvres avec extrêmement de riches à l'intérieur. Il faut augmenter les impôts fonciers, un moment. Voilà.
Du côté de son engagement politique, elle exprime les tensions et les désaccords au sein de l'équipe municipale et comment les tensions sont gérées.
Il y en a, heureusement. Si on était tous d'accord tout le temps... Donc, effectivement, il y a des débats au sein de la majorité municipale en fonction des sujets. Nous, on fait des réunions de majorité une fois toutes les 2 semaines, sans service, sur des thématiques. Et puis, on prend collectivement des décisions et puis on s'y tient. Voilà.
Mais malgré les difficultés, elle reste animée par la conviction que l'action collective et la solidarité peuvent faire bouger les lignes. Voilà ce qu'on pouvait vous partager de cet entretien avec Aurélie Breujean. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son temps et la richesse de ses réponses. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous. On espère que cet échange vous aura permis de mieux comprendre les missions d'une élue engagée, ainsi que les enjeux de l'engagement citoyen d'aujourd'hui. À très bientôt sur Radio Campus.
Et si vous avez toute autre question par rapport au podcast, veuillez appeler le 07 69 00 20 13. Bonne journée!